Nous avons ici un livre extraordinaire. Extraordinaire dans tout ce qui se trouve. Il n'y a pas un mot dans ce livre que Dieu n'a pas voulu que ce mot soit utilisé. Et à lire, je viens de faire une, enfin, presque fini, toute une série d'études bibliques de 57 raisons pourquoi nous pouvons savoir que ce livre, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je fais depuis quelque temps dans mon étude biblique du mercredi après-midi. Et une des raisons pour, qui fait valoir l'inspiration de ce livre, c'est ce qu'on appelle le principe des types. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, il y a dans les histoires, dans les événements, il y a toute une série d'images de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, de son œuvre, de ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Il y a plein d'illustrations qui sont là exprès. Et l'une de ces types que je trouve le plus extraordinaire, c'est celui de Joseph. On peut en trouver dans plein d'autres passages, mais celui de Joseph, je trouve particulièrement riche, particulièrement frappant. Parce que dans la vie de Joseph, je ne sais pas si c'était moi en train de raconter la vie de Joseph, peut-être j'aurais dit s'il aimait les spaghettis ou non. Ou si j'aurais dû parler de son couleur préférée. Ou peut-être j'aurais parlé de plein de détails. Mais quand nous lisons l'histoire de Joseph, on peut découvrir dans presque chaque détail qu'on trouve dans la vie de Joseph, quand il parle de Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire. Et j'aimerais que rapidement ce soir, nous regardons la vie de Joseph pour capter des images de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, il se fait voir partout. Mais la chose, c'est que Dieu, quand il a dirigé Moïse pour écrire le livre de Genèse, il a dirigé Moïse pour écrire les détails qui préfiguraient Jésus-Christ. Et c'est tellement riche, tellement extravagant, tellement frappant, que je ne sais pas comment on peut lire la vie de Joseph et ne pas être, on peut dire, émerveillé de voir l'histoire de Jésus-Christ là-dedans. Donc, on va le faire assez rapidement. On m'a informé qu'il est question de faire un peu de temps. Et je vais essayer de faire avancer les choses assez rapidement, mais je veux que nous quittons ce camp que nous avons passé ensemble en pensant à Jésus-Christ. Que quand nous partons, que dans nos études bibliques et dans tout ce qu'on a vu, nous disons, c'était bien parce qu'on a parlé de Christ. Oh, peut-être le badminton était bien, et peut-être le plan d'eau était bien, peut-être le soleil finalement qui est arrivé était bien, mais ce qui est plus extraordinaire, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous voyons Jésus-Christ dans la vie de Joseph. Donc, je vous invite à chercher Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, et verset 3, si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous le voyez. Si vous avez une Bible, vous avez une Bible? C'est dommage. Genèse chapitre 37 et verset 3. Nous lisons ici, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, donc le papa de Joseph, il a eu 12 fils. Et de ces 12 fils, le passage ici nous dit que Joseph était aimé plus que les autres. Gardons-nous en Genèse et voyons Matthieu chapitre 3 et verset 17. Matthieu au chapitre 3 et verset 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui peut me lire Matthieu chapitre 3 et verset 17? Est-ce que j'ai un volontaire? Je veux venir, s'il te plaît. Donc ici, ça dit que Jésus-Christ, c'est le bien-aimé. C'est celui que Dieu le Père aime plus que tous les autres. C'est extraordinaire. C'est celui-ci, c'est celui que, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il a donné son Fils, mais le Fils qu'il aimait. Donc, première chose que je remarque, Genèse chapitre 37 et verset 3, c'est que Joseph était aimé de son père comme Jésus-Christ était aimé de son père. Et puis, revenons à Genèse chapitre 37 et verset 4. Je vous le dis 17 choses. Ça, tu n'y as plus. Je vous le dis 17. Donc, ici, le deuxième. Genèse 37 et verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc, Joseph était haï de ses frères. Mais qu'est-ce que ça dit en Jean chapitre 15? Non, Jean chapitre 15, verset 18. Quelqu'un peut bien me lire Jean chapitre 15, verset 18? Jean chapitre 15, verset 18. Et puis, verset 25.
Mais cela est arrivé afin que chacun puisse la parole qui est écrite dans la loi, il n'y a pas une chose.
Donc, Jésus-Christ était haï de ses frères. Il était aimé de son père et haï de ses frères. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Revenons au Genèse chapitre 37 et nous allons voir verset 7. 9 et 10. Genèse chapitre 37, verset 7. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 9. Il y a encore un autre songe. Et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il leur raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosternions à terre devant toi? » Ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce que ça dit? Philippiens chapitre 2, verset 10. Philippiens chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Philippiens chapitre 2, verset 10. Pardon? Seigneur, voilà. Tous les genoux flécheront devant Jésus-Christ. Donc, maintenant, on peut lire l'histoire que Joseph devient très important. Et quand ses frères sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les frères de Joseph. Quand ils sont arrivés devant Joseph, ils se sont mis à genoux. On dit, s'il te plaît, donne-nous à manger. Puis après, s'il te plaît, lâche notre frère. S'il te plaît. Et Joseph ne le disait pas que c'était lui. Genèse chapitre 37 et verset 13. Genèse chapitre 37 et verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je t'envoie vers eux. Et ils y répondit, me voici. Donc, qui a envoyé Jésus-Christ en monde? Le Père. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Et ici, le Père de Joseph l'envoie où? Chercher ses frères. Ça, c'est frappant, c'est ça. C'est tous les détails. Et puis, alors on peut voir, Genèse chapitre 37 et verset 23. Genèse chapitre 37, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tenue et de la tenue de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. On lui enlève son manteau que son père lui avait donné. Mais avec Jésus-Christ, Matthieu chapitre 27, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Matthieu 27, verset 28. Matthieu chapitre 27, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un peut me lire?
Il lui
ôte
ses vêtements, il
recouvre
d'un manteau et d'un
masque. Voilà, on lui a ôté son manteau, on a ôté ses vêtements, on l'a dépouillé. Comment on l'a dépouillé, Joseph? C'est bizarre qu'il y ait des détails comme ça. Mais c'est que Dieu a voulu pour nous faire comprendre que cette histoire nous parle de Jésus-Christ. Genèse chapitre 37, et verset 27 et verset 28. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Donc, on l'a vendu. On ne voulait pas, les frères ne voulaient pas le tuer, parce que c'était quand même son frère, leur frère. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, Jésus-Christ a été vendu, et puis livré aux Romains pour que les Romains fassent le travail. C'est un travail de faire mourir Jésus. Donc, de la même façon, c'est ce qui est passé à Joseph. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, versets 3 et 4. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, il est question ici que son maître, on a vu que Joseph prospérait et il a gagné la grâce au lieu de son maître. Mais Jésus-Christ, Matthieu chapitre, Jean chapitre 5, verset 19, qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 5, verset 19. Quelqu'un veut bien me lire, s'il vous plaît?
Jésus reprit donc la parole et leur dit: En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père.
Donc, comment t'es-tu?
Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Donc, il y a question ici de l'œuvre de Jésus-Christ qui a fait les choses d'après ce que Dieu le Père lui a donné à faire. Ici, dans ce passage, il y a Joseph qui Dieu faisait prospérer toute l'œuvre que Joseph faisait, qu'il le faisait par Dieu, et Dieu faisait prospérer ce qu'il faisait. Comme Jésus-Christ a accepté Dieu le Père, qui tout ce qu'il faisait par son Père. Donc, Genèse chapitre 39, verset 7 à 9. Genèse chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il n'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ici, la femme de Potiphar, elle tente Jésus-Christ. Oh, il tente Joseph. Elle tente Joseph de faire quelque chose, de pécher. Mais quand le diable a rencontré Jésus dans le désert, il a tenté à pécher. Et Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme nous. C'est extraordinaire. Et Joseph a résisté à la tentation, Et Jésus-Christ a résisté à la tentation. C'est intéressant, n'est-ce pas? Allons plus loin. Chapitre 39, verset 14. Elle appela les gens, c'est la femme de Potiphar, elle appela les gens dans sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai crié à haute voix. Donc, elle invente un mensonge, elle accuse faussement. Joseph est accusé faussement par les mensonges. Mais Luc chapitre 23, verset 10, qu'est-ce que ça dit? Luc 23, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Luc chapitre 23, verset 10. Qui va bien me lire?
Les principaux sacrificateurs et les prêtres étaient là et l'accusaient avec violence.
Donc, Jésus-Christ était aussi accusé faussement. Oh, il dit de ne pas payer les impôts aux Romains. Ils ont essayé de l'accuser. Il dit de ne pas garder la loi. Il viole le sabbat. On entend des mensonges contre lui. On l'accuse faussement. Comme Joseph aussi a accusé faussement. Genèse chapitre 40, verset 14. Genèse chapitre 40, verset 14. Mais souvenez-toi de moi quand tu seras heureux et montre de, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Donc, Joseph, il parle avec ce prisonnier qu'il avait interprété le rêve et le songe. Et il dit, écoute, quand tu sors, tu vas intercéder pour moi auprès de Pharaon pour que je puisse être libéré d'ici. Luc chapitre 23, verset 42, qu'est-ce que ça dit? Luc 23, verset 42. Qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un va bien me lire? Donc, il est question de la demande de se souvenir, ici c'est le brigand sur la croix, que lui demande, souviens-toi quand tu... Et on peut dire, on trouve cette même idée, que Joseph demande qu'on se souvienne de lui. Genèse chapitre 40, verset 23. Genèse chapitre 40, verset 23. Le chef des échansons ne pensait plus à Joseph, il l'oublia. Jacques chapitre 1, verset 24. Jacques chapitre 1, verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Jacques 1, 24. Voilà, on l'oublie aussitôt. Et ici, ça parle de la parole, c'est mieux voir. Mais en fin de compte, on l'oublie aussitôt. Alors, est-ce que ça vous est arrivé à lire les bonnes choses dans la Bible sur Jésus-Christ? Et puis, vous fermez la Bible et vous n'y pensez plus. Vous oubliez. Les chansons, on l'a oublié aussi. Voyons Genèse chapitre 41 et verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Marc chapitre 16 et verset 9. Qu'est-ce que dit Marc chapitre 16 verset 9? Donc Pharaon, ici Joseph est en prison, il sort. Et on voit Marc chapitre 16 verset 9, qu'est-ce que ça dit? Donc, Jésus-Christ est sorti vainqueur du tombeau. Ici, Joseph est sorti, on peut dire, de la prison, un peu comme un tombeau. Comme s'il était mort, la prison, il est sorti vivant. Et il y a question de Jésus-Christ qui est sorti vivant. Genèse chapitre 41, verset 46. Genèse chapitre 41 et verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présente devant Pharaon, roi d'Égypte, et quitta Pharaon et Pharaon tout le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il a commencé son travail en Égypte en tant que premier ministre. Luc chapitre 3, verset 23, qu'est-ce que ça dit? Luc chapitre 3, verset 23, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Donc, on voit Joseph, quand il a commencé à servir Pharaon, il est 30 ans. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère pour servir son père, il avait 30 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence, tout ça? Moi, je ne crois pas. C'est la main de Dieu. Genèse chapitre 42, verset 21. Genèse chapitre 42, verset 21. Nous lisons, et ils se dirent l'un ou l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Là, voyons Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, verset 10. Donc, ici, c'est ses frères qui se souviennent de la souffrance de Joseph. Et nous voyons Zacharie, chapitre 14, verset 10. Qu'est-ce qu'on veut me lire?
Tout le pays deviendra comme la plaine de Guébara du monde, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, sur la porte des angles, et depuis la tour de Hananim jusqu'au pressoir du grand.
Zacharie 14, 10. Ça, c'est que j'ai compris le passage. Celui que Dieu, il voit ses mains qui sont percées, c'est 12. Je me suis trompé de référence. Excusez-moi.
Alors, je vais tromper sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui est percé. Ils pleureront sur lui comme un fleur sur un premier. Ils pleureront la mer, moi, sur lui comme un fleur sur un premier.
Voilà. Donc, on voit que eux, on peut dire les Israélites, ils vont se pleurer chez Jésus-Christ, en se souvenant des souffrances que Jésus-Christ a souffert. Genèse chapitre 44, et verset 33. Ici, c'est Judas, un des frères de Joseph qui parle. Mais on voit quelque chose d'intéressant. Genèse 44, verset 33. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, parce que Joseph regarde maintenant Benjamin pour être son esclave, comme esclave devant mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. On voit que Judas, et Jésus est venu de la tribu de Judas, était prêt à prendre la place de son frère Benjamin. Et Jésus-Christ a pris notre place. Genèse chapitre 45, le dernier qu'on va voir ce soir. Genèse chapitre 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Puis voyons chapitre 50 et verset 20. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu le changer en bien, pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Romains chapitre 8, verset 28. Car toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous pouvons voir que dans la vie de Joseph, Joseph a reconnu que là où il est passé, il fallait qu'il y passe pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et combien Jésus-Christ Là où il est passé, c'était une souffrance pour laquelle il est passé, c'était pour accomplir les plans de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et combien nous pouvons apprendre aussi dans notre propre vie, que quand on a des difficultés, que Dieu, il est au-dessus, et que, comme Joseph, il peut reconnaître que Dieu peut changer le mal en bien. Donc, est-ce que vous croyez que tous ces passages qu'on a vus rapidement, je ne voulais pas être trop long là, ce soir, parce que je sais que c'est tard et tout ça, mais est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Est-ce que vous croyez que c'est simplement par chance? Je ne crois pas du tout. Et ce livre, quand c'était écrit, c'était pour nous révéler Jésus-Christ. Et quand vous lisez ce livre, cherchez à voir Jésus-Christ dans toutes les pages, dans tous les chapitres, dans toutes les histoires. Et Jésus-Christ, il se trouve partout. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est ce que vous allez penser, si vous allez repartir de ce temps en train de dire, nous avons parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer ce soir parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Et elle est inspirée, elle est dirigée par toi. Et nous voulons te louer, Seigneur, parce que tout ce qui se trouve nous dirige vers Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te prions que chacun de nous, en quittant ce temps, nous n'oublions pas Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen.